Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les principales informations de ce jeudi 24 décembre. Le feu d'artifice du Nouvel An à Sydney va-t-il être annulé? C'est en tout cas le conseil de plusieurs médecins. En Europe, Bruxelles et Londres sont plus proches que jamais d'un accord sur le Brexit. Et en France, le deuil, puisque nous avons appris le décès successif d'abord de l'acteur Claude Brasseur et puis aujourd'hui de la chanteuse Rika Zaraï. Nous reviendrons sur leur carrière en fin de journal. L'accès au vaccin contre le Covid-19 en Australie est désormais presque une réalité. Le gouvernement fédéral vient de signer une série de contrats avec plusieurs entreprises qui se chargeront de la livraison mais aussi du suivi opérationnel. Ainsi, ce sont les sociétés DHL et Linfox qui vont être chargées de la distribution de dizaines de millions de doses de ce vaccin à travers le pays. Et le groupe Accenture va lui superviser le processus de vaccination mais aussi recenser parmi les vaccinés de potentiels effets secondaires. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, se félicite de cette avancée.
It's one of the largest logistics challenges in Australian history, but we'll be distributing to all Australians equally. We're on track and ahead of schedule with regards to all our preparations for a March rollout. Our whole approach has been to provide confidence by under-promising and over-delivering.
Et rappelons à ce sujet qu'en Australie, la vaccination sera gratuite pour tous et elle ne sera pas obligatoire. À Sydney, où on a récemment recensé quelques nouveaux cas de coronavirus, la situation semble pour l'instant rester sous contrôle. Les autorités ont annoncé aujourd'hui 9 nouveaux cas pour plus de 60 000 tests effectués hier. On rappelle également les restrictions qui sont en place dans le secteur des Northern Beaches pour Noël, avec des règles différentes selon les quartiers. Dans la zone de Peninsula, qui correspond au nord des Northern Beaches, pas plus de 5 visiteurs à domicile, parmi lesquels il faut également compter les enfants. Et ces visiteurs doivent également faire partie de cette zone. En revanche, au sud des Northern Beaches, en gros au sud du pont de Narrabeen, on peut recevoir jusqu'à 10 personnes, sans compter les jeunes enfants. Et donc, si Noël au final devrait se dérouler presque normalement pour quasiment tout le monde à Sydney, le feu d'artifice du Nouvel An, lui, pourrait être annulé. C'est en tout cas le souhait d'Omar Khorshid, il est le président de l'Association médicale australienne, mais c'est aussi l'avis de l'épidémiologiste et conseillère de l'Organisation mondiale de la santé, Marie-Louise McClose. Elle pense, elle aussi, que tout doit être fait pour éviter les attroupements de foule.
I understand that we are all really excited about the Christmas break, regardless of which religion or culture we come from. It's a time to come together. But this is also an accelerant time, such as New Year's Eve as well. And we did ask our Muslim Australian community to please not have Eid, to keep it to the family. Hanukkah was kept to the family. It was very small. We don't want to add fuel to this potential fire.
Et pendant ce temps-là, les frontières des États australiens sont fermées, une tâche pour laquelle 13 000 militaires ont été mobilisés en renfort des services de police de chacun de ces États. Ils sont mobilisés sur les routes, mais aussi dans les aéroports. C'est décidément une année qui n'a pas été comme les autres pour l'armée australienne. C'est ce qu'explique le lieutenant général John Frewen, qui dirige la task force COVID-19 de l'armée.
It's been a huge year for the ADF, but it's been a huge year for all of the first responders around the nation. We've done things this year that we never imagined that we would be getting involved in. We have been in, factories producing masks. We've been in aged care facilities. We've been doing contact tracing. We've been doing testing on the streets.
Et si vous avez prévu de manger des crevettes ce soir ou dans les jours qui viennent, vérifiez bien vos emballages. Les magasins Woolworths rappellent en ce moment des paquets de crevettes surgelées. Exactement, elles s'appellent Cooked and Peeled Prawns et leur date d'expiration indique la date du 21 février 2022. D'après Woolworths, ces crevettes contiennent peut-être une contamination microbienne. Elles ont été vendues à peu près dans tous les États australiens à l'exception du Queensland. Aux États-Unis, le toujours président Donald Trump a refusé de signer la loi sur le budget de la défense, une loi qui prévoyait notamment une augmentation des salaires des troupes de 3%, mais aussi une enveloppe de près de 1 000 milliards de dollars australiens pour des opérations militaires. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, il semblerait qu'on voit enfin le bout du tunnel, plus précisément le bout de l'Eurotunnel, puisque Bruxelles et Londres seraient tout proches d'un accord sur le Brexit, après que le Royaume-Uni ait fait de très importantes concessions. À Londres, on va écouter les explications de Nina Guerino de la mairie.
Un accord de commerce post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait enfin sortir du four ce soir, à une semaine seulement de la fin de la transition post-Brexit. Cuisiné pendant des mois, l'accord est prêt mais les discussions continuent, a affirmé une source de Downing Street. Cela fait des semaines que l'échéance est repoussée. Depuis 15 jours, la balance penchait plutôt en faveur d'un no deal. Le 10 décembre, Boris Johnson, qui refuse de poursuivre les négociations au-delà du 31 décembre, menaçait d'un accord à l'australienne, c'est-à-dire un accord sous les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce. Outre-Manche, petites et grandes entreprises britanniques trépignent d'impatience et réclament un deal à leur gouvernement. Ce sera peut-être le cas ce soir. Trois sujets restés au cœur des débats: la pêche, les conditions de concurrence et la gouvernance de l'accord. La Grande-Bretagne est mise à l'isolement par l'Europe depuis ce week-end à cause d'une nouvelle souche du Covid-19. Des milliers de chauffeurs routiers sont encore bloqués à travers tout le pays. Un accord serait donc un joli cadeau de Noël pour des millions de Britanniques. Nina Guerino de la mairie, Londres, RFI.
Et en Israël, les électeurs vont être appelés pour la quatrième fois en moins de 2 ans aux urnes. La Knesset, le Parlement australien, s'est auto-dissous dans la nuit de mardi à mercredi, faute d'avoir pu se mettre d'accord sur le vote du budget. Ces élections, elles doivent avoir lieu d'ici 82 jours. Alors qu'en pensent les Israéliens ? Michel Paul, le correspondant de RFI à Jérusalem, est allé leur poser la question.
Face à la résidence du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, ils manifestent par milliers les week-ends. En semaine, ils ne sont que quelques dizaines à camper aux abords de la rue Balfour. Et les avis sont partagés. Iris pense que le moment est mal choisi pour une quatrième consultation politique.
J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'élection. Ce n'est pas sain pour le pays. Et ce n'est pas seulement une question de santé, c'est l'économie aussi. Ce qui intéresse les politiciens, c'est leur chaise et leur fonction.
Dans l'autre camp, celui des anti-Netanyahou, c'est la meilleure solution. Ronit résume 7 mois de gouvernement en 2 phrases.
C'est bien que cela se termine comme ça. C'est dommage que ce gouvernement ait vu le jour.
Même ton pour Ori Nachman, qui ne cache pas son soulagement.
Cela fait partie des combines de Bibi. C'était prévu. Nous sommes au bord du précipice. Israël a été conquis par une bande de malfaiteurs.
Les premiers sondages prévoient qu'une nouvelle fois, les résultats ne permettront pas la mise en place d'une coalition stable. Mais Miri, militante du Likoud, est plus qu'optimiste.
Bibi est un génie, il sait ce qu'il fait. Il ne voulait pas ces élections, c'est sûr, mais Bibi est un magicien. Vous allez voir, cette fois-ci, on va obtenir avec l'aide de Dieu 43 députés.
Quoi qu'il en soit, c'est le coup d'envoi de la plus courte campagne électorale qu'ait connue le pays qui a été donné ce matin, sur les médias et dans la rue. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Un navire de la marine australienne est en ce moment même en route pour les îles Fidji, où il doit apporter de l'aide matérielle mais aussi du personnel pour aider l'archipel qui vient d'être frappé par le cyclone Yasa. L'Australie va consacrer au total 4,5 millions de dollars pour aider les Fidjiens, c'est ce qu'a annoncé la ministre des Affaires étrangères, Mary Spane. En France, à l'occasion du réveillon de Noël, le couvre-feu actuellement en place va être levé. En revanche, on ne pourra pas être plus de 6 à table. Alors comment les Parisiens se préparent à ce réveillon pas comme les autres ? Je vous propose d'écouter le reportage d'Aram Deng pour RFI.
Le réveillon, je le fais à la maison, toute seule. Et le lendemain, là, je me trouve avec des amis et on fait ça en toute gentillesse, quoi.
Et les masques seront gardés, distanciation.
On a prévu, et puis de remettre son masque quand on a mangé, enfin voilà.
On va être avec des amis.
À la maison, je pense pas, on va pas porter des masques.
Il va falloir faire attention parce que souvent pendant les fêtes, on va voir les grands-parents. Et c'est là où c'est le plus dangereux, c'est ceux qui sont les plus vulnérables. Donc on essaie de faire plus attention que d'habitude en tout cas.
Bah, qu'est-ce qui change ? On peut pas aller se rassembler tous quoi. On sera 6 plus les enfants, mais voilà.
En famille, mais très restreint. Non, on reste en petit comité. Famille restreinte, vraiment. Moi, mon mari et mes enfants, c'est tout. On n'invite personne et on va chez personne.
Non, on ne sera pas, on ne va pas respecter les 600. Il y aura une personne en plus, c'est la belle-mère. On s'est dit, on ne va pas la laisser toute seule, donc on va le fêter à 7 personnes.
Mais vous respecterez la distanciation physique ?
Oui, on va essayer parce qu'on a fait en sorte d'être dans un grand appartement avec un salon assez grand pour pouvoir avoir une grande table, donc on fera le maximum. On va fêter Noël, mais pas dans le bon esprit de Noël quand même.
Mardi, l'acteur Claude Brasseur est décédé à l'âge de 84 ans. Il avait tourné au cours de sa carrière plus d'une centaine de films, parmi certains extrêmement populaires comme La Boum ou encore la comédie Camping. Je vous propose d'écouter son portrait, le portrait réalisé par Isabelle Chenu pour RFI.
Voix rocailleuse, sourire jovial et regard pétillant, Claude Brasseur était un des acteurs français les plus populaires. Il avait eu pour parents Pierre Brasseur et Odette Joyeux, deux monstres sacrés du cinéma et du théâtre qui lui avaient transmis le goût du spectacle.
J'aime bien me déguiser. Ce ne sont que des panoplies, mais après on se déguise dans la tête, on se déguise intellectuellement, on essaye de penser que l'on est un homme politique quand on joue Fouché, on essaye de penser comme un voyou quand on joue un gangster, on essaye de penser comme un flic, enfin...
C'est la télévision dans les années 60 qui fait de Claude Brasseur une vedette avec la série Vidocq. Il joue pour les plus grands réalisateurs, Georges Lautner, Jean-Luc Godard, Francis Weber, Claude Sauté, Francis Giraud. Mais c'est avec Yves Robert qu'il va triompher dans des comédies à succès, comme Un éléphant ça trompe énormément et sa suite Nous irons tous au paradis. L'histoire de quatre copains quadragénaires en pleine crise existentielle. Dans les années 80, il est le père dentiste de Sophie Marceau dans La Boum de Claude Pinoteau, un film sur l'adolescence. 15 millions d'entrées en Europe, un véritable phénomène de société. Parmi ses derniers rôles au cinéma, celui d'un retraité râleur au cœur tendre dans la comédie Camping, déclinée en série à succès pour le cinéma français.
Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors ?
Oh bah non, on sera obligé de venir là tout le temps.
Et aujourd'hui, c'est une autre célébrité dont on a appris le décès, la chanteuse Rika Zaraï, qui elle nous a quittés à l'âge de 82 ans. Elle était très populaire dans les années 70 et 80. Cette fois encore, c'est Isabelle Chenu qui nous retrace son parcours.
Rika Zaraï était son nom de scène, celui que s'était choisi cette jeune Israélienne venue à 20 ans à la fin des années 50 tenter sa chance à Paris. Elle ne parle alors pas un mot de français, mais sa passion du chant et de la scène lui fera franchir tous les obstacles. Elle fera finalement les premières parties de Jacques Brel à l'Olympia. En 1965, elle fait sa première grande tournée avec une star de l'époque, Gilbert Bécaud, se fait remarquer dans plusieurs émissions musicales à la mode. Sa carrière est lancée et les premiers tubes s'enchaînent.
Vous me permettrez sans façon de vous présenter ma chanson. Sans chemise, sans pantalon. À quoi bon vous aider au cri puisque vous chanterez aussi sans chemise.
Rika Zaraï chantera en français des classiques du répertoire israélien et connaîtra une vraie popularité dans les années 70. En parallèle de sa carrière de chanteuse, Rika Zaraï se passionne pour la médecine naturelle qu'elle promeut dans un livre à succès pendant la décennie 80. Elle sera beaucoup moquée pour sa promotion des bains de siège dans l'eau glacée. En 2008, l'artiste avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral.
C'est l'hiver qui frappe à notre porte, mes amis, allumons un bon feu.
Et pour finir, on jette un œil à la météo du jour en Australie. À Perth, le Père Noël va pouvoir enlever son manteau puisqu'il fait aujourd'hui 40 degrés et grand soleil. Soleil aussi à Adélaïde avec 26 degrés, 19 degrés à Melbourne, 27 degrés sous les nuages à Sydney, 28 degrés à Brisbane et 31 degrés à Darwin où le temps est aujourd'hui humide. Mais en fait, c'est tout à fait normal puisqu'on est entré dans la saison des pluies.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.